Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, la défenseur globale des Nations Unies pour la paix, Myriam Boukhar Hassan, est en mission à Bounia, dans la province de l'Ituri. C'est dans l'objectif d'apporter un soutien psychosocial aux femmes traumatisées par les conflits armés. Le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de créer un tribunal pénal économique et financier chargé de réprimer les infractions économiques. Il s'agit là d'une juridiction spécialisée destinée à renforcer la lutte contre la criminalité économique. L'invité de ce journal est le directeur de l'organisation Appui aux initiatives communautaires de conservation et de développement durable, AICED, basée à Goma, au Nord Kivu. Faustin Nyebone parle de la campagne de lutte contre la pollution plastique à l'intention des femmes menée tout au long de ce mois de mars. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue et bonne écoute. La défenseur globale des Nations Unies pour la paix, Myriam Boukhar Hassan, en mission à Bounia, en Ituri, a échangé hier samedi avec des femmes leaders ainsi qu'avec des femmes issues des différents contingents de la MONUSCO. Objectif, apporter un soutien psychosocial aux femmes traumatisées par les conflits armés. Elle a également participé à une patrouille motorisée pédestre des casques bleus dans les rues de Bounia. Le point avec Isaac Remoyopi.
Échange autour des problèmes spécifiques des femmes et participation aux patrouilles des femmes casquées bleues de la MONUSCO ont marqué la première journée de la visite de la défenseur globale des Nations Unies pour la paix. À travers ces activités, Myriam Boukhar Hassan a voulu encourager les femmes à surmonter les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, mais aussi à assumer pleinement leur rôle d'architecte de la paix.
Type of activity is important because women activity est très importante parce que les femmes sont très importantes pour la construction de la paix et c'est important de prendre en compte la spécificité psychologique. Je prie pour la paix et chaque chose a une fin et je prie pour que ce jour arrive, pour que la paix arrive enfin, so that they can find peace.
La présidente du collectif des femmes de l'Ituri affirme que cette visite redonne espoir et sourire à ces femmes dont la plupart ont été victimes des affres de la guerre. Elisabeth Bouvet.
Dans le peu de temps, on a eu à dégager les femmes de leurs problèmes. Ils ont une solution psychologique et la détraumatisation. C'est une façon de la recherche de sa joie perdue. C'est là qui était un peu, je dirais, étouffée par les problèmes.
Myriam Boukhar Hassan a également salué le dynamisme des femmes de l'Ituri dans leurs efforts pour leur autonomisation. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Prorogation de l'état de siège pour une nouvelle période de 15 jours dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Deux provinces confrontées depuis plusieurs années à l'activisme des groupes armés et à une insécurité persistante. Cette prorogation s'inscrit dans la continuité de l'ordonnance du 3 mai 2021 qui avait proclamé l'état de siège dans certaines provinces de l'est du pays. Les autorités justifient cette mesure par la nécessité et l'urgence de poursuivre les opérations visant à rétablir la sécurité et l'autorité de l'État dans les zones concernées. La décision intervient conformément à l'article 144 de la Constitution et après délibération du gouvernement en Conseil des ministres. Dans la province du Tanganyika, un ressortissant chinois a été retrouvé hier samedi après avoir été kidnappé vendredi dernier par des coupeurs de route dans le territoire de Manono. Ces bandits armés ont tendu une embuscade sur l'axe Manono-Kiambi. Le chinois, son chauffeur et un policier ont été blessés. L'administrateur du territoire de Manono confirme l'information et annonce que les assaillants sont traqués par des militaires des FARDC. Le point avec Paul Mounanga.
D'après l'administrateur du territoire de Manono, les Chinois étaient employés de l'entreprise Craxit. Il a été retrouvé avec une blessure à la main. Signalons que l'attaque a eu lieu ce vendredi aux environs de 9h locales après Kanteba, un village situé à 7 km de Manono centré sur l'axe Manono-Kiambi. Les Chinois, accompagnés de son chauffeur et d'un policier, revenaient de la cité de Kiambi où Craxit, son entreprise, exécute des travaux de réhabilitation routière. Au cours de l'attaque, les chauffeurs et les policiers ont été blessés par des hommes armés non autrement identifiés et les Chinois a été kidnappé, souligne l'administrateur du territoire de Manono, Cyprien Kitanga Kibale.
Les hommes en uniforme, la militaire, les ont suivis et se sont échangés pendant 10 à 15 minutes. Ça n'a pas été et puis les bandits sont allés avec les Chinois en brousse. C'est hier aux environs de 17h que les Chinois étaient retrouvés au même endroit là. Mais malheureusement, il était touché par balle en main. et il est en train de suivre les soins appropriés. Il y a un chauffeur qui a été blessé et un policier aussi.
Signalons que des ressortissants chinois sont souvent la cible des coupeurs de route dans la province du Tanganyika. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, plusieurs habitants de Badengaïdo se déplacent depuis hier samedi vers Niania et Mambasa, territoire du même nom. À l'origine de ce mouvement de population, l'attaque par un groupe armé en gestation depuis mercredi dernier du site minier de Muchacha, situé à une dizaine de kilomètres de Badengaïdo. Ces hommes armés ont également attaqué hier samedi une équipe de FARDC à Pengé. Selon la nouvelle société civile du territoire de Mambasa, le bilan provisoire fait état de 7 morts, de plusieurs dizaines de personnes enlevées, ainsi que des maisons pillées et incendiées. Les activités sont aussi paralysées dans la zone. C'est un reportage de Isaac Remoyope, rendu par Vanessa Kongolo.
La situation sécuritaire s'est nettement détériorée autour du site minier de Mouchacha, près de Baïndeigo, dans les territoires de Mambasa. Craignant pour leur sécurité, de nombreux habitants ont fui leur village pour se réfugier à Nyanya et à Mambasa. Conséquence, les activités économiques et scolaires sont presque à l'arrêt dans ces entités, indique la nouvelle société civile locale. Lors de l'attaque du site minier de Mouchacha, les assaillants ont également pillé les biens de la population et incendié plusieurs maisons. Selon la nouvelle société civile du territoire de Mambasa, au moins 7 personnes ont été tuées et une centaine d'autres enlevées. Une partie des otages aurait déjà été libérée par les hommes armés. Samedi, ces derniers ont aussi attaqué un Pengé, un véhicule de FARDC qui se rendait en renfort vers Mouchacha. Un militaire a été blessé, tandis que d'autres soldats se seraient repliés. Pour l'instant, une forte psychose règne dans la zone. Les habitants demandent une intervention urgente de l'armée pour neutraliser cette milice. Jusqu'à présent, le gouvernement provincial ne s'est pas encore exprimé sur cette situation.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de créer un tribunal pénal économique et financier chargé de réprimer les infractions économiques et financières en République démocratique du Congo. Dans une ordonnance-loi signée le 14 mars 2026, le chef de l'État congolais institue cette juridiction spécialisée destinée à renforcer la lutte contre la criminalité économique, notamment la corruption, les détournements des deniers publics, l'enrichissement illicite et encore le blanchiment des capitaux. Les points avec Christian Makasinga.
Dénommé Tribunal pénal économique et financier en sigle TPF, cet organe judiciaire disposera d'une autonomie fonctionnelle et d'un budget propre inscrit au budget national. Son siège est établi dans la capitale Kinshasa avec la possibilité de créer des sièges secondaires sur l'ensemble du territoire national. Selon l'ordonnance, le tribunal sera composé des deux chambres, une chambre de première instance et une chambre d'appel. La juridiction comptera au moins 40 juges, dont 20 magistrats des carrières et 20 juges assesseurs. Un parquet général économique et financier sera également rattaché à cette juridiction pour instruire et poursuivre les infractions relevant de sa compétence. Toutes les affaires liées aux infractions économiques actuellement pendantes devant les juridictions ordinaires seront transférées à cette nouvelle structure dès son installation. Les tribunaux pénal économique et financier devra être effectivement installé dans un délai de 3 mois après l'entrée en vigueur de l'ordonnance-loi. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la transparence et la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo.
Droits garantis, autonomisation pour toutes les femmes et les filles et zéro discrimination, zéro violence. Garantir et promouvoir les droits des femmes et des filles pour un maniement plus juste. Thème au centre d'une journée de réflexion dans cette province. Organisée hier samedi 14 mars par la division du genre, famille et enfants. Cette rencontre a réuni toutes les couches de la population au sein de la maison de la femme. Objectif, interpeller la conscience de l'opinion nationale sur la situation de la femme du maniement. Florence Kizalunga, reportage.
Parlant de droits, Maître Laïni Tenda Keren a prouvé au public que la femme, en plus d'avoir des droits comme tout être humain, a aussi ses droits spécifiques qu'elle est censée connaître.
La femme a plusieurs droits, comme tout être humain, et au-delà de ces droits-là, elle a aussi ses droits spécifiques. Et la femme, parfois, elle est même ignorante de ses propres droits.
Sylvie Kaloumé, qui a exposé sur l'autonomisation de la femme, invite ses pères à briser la paix et à oser.
Les femmes doivent briser la peur et dénoncer les violences. Elles doivent s'informer et oser de nouvelles expériences qui peuvent être des activités créatrices ou génératrices de revenus.
La chef de division du genre, Pouachéoussi Elisabeth, s'attend à un maniement plus juste après les engagements des uns et des autres.
Nous nous attendons vraiment à un changement et ce changement demande une lutte de notre part puisque nous voulons rendre notre maniement plus juste par rapport à nos actions. Donc les femmes, nous devons agir par rapport au contexte que nous sommes en train de traverser dans notre province.
Sachez que c'est dans le cadre du mois de la femme que cette activité a été organisée. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis, zéro décès maternel d'ici 2033. C'est l'objectif de la campagne de sensibilisation à l'intention des responsables des zones de santé du Nord Kivu, lancée hier samedi à Beni par la division provinciale de la santé. Objectif, rappeler aux prestataires des soins leur responsabilité dans la réduction des erreurs médicales qui surviennent lors de la prise en charge des femmes enceintes. Le coordonnateur du programme a souligné l'urgence de renforcer les bonnes pratiques médicales et d'assurer un suivi plus strict des patients afin de sauver davantage des vies lors des accouchements. Désiré Bouyana explique au micro de Marc Marofimbo.
Les décès maternels, c'est un problème qui est inquiétant dans la province du Nord Kivu. C'est là où le programme de communication pour la promotion de la santé, avec ses stratégies de communication, notamment les dialogues communautaires, où nous avons pris la décision de dire que nous devons organiser des séances de dialogue avec les différents prestataires de chacune des structures pour discuter sur les responsabilités. Et nous avons constaté qu'il y en a 3, si pas 4 responsabilités. Par rapport à la prestation et par rapport à la prise en charge des cas des femmes qui viennent accoucher dans les CPN, nous avons trouvé qu'il y a une responsabilité morale. Nous avons évoqué la question de la responsabilité technique. Dans celle-là aussi, nous avons relevé quelques erreurs techniques que les prestataires commettent. Et enfin, nous avons fini par la responsabilité sociale.
Au Kasaï oriental, plusieurs travaux de différents chantiers de construction et de modernisation de l'aéroport de Bipemba sont presque terminés. Dans une interview à Radio Okapi hier samedi à Mbujimayi, le commandant de la régie des voies aériennes parle de l'état d'avancement de ces travaux. Romain Tinyama est au micro d'Esther Ndalafina.
Nous sommes en travaux de finissage actuellement. Pour la plupart de tous les projets, compris dans le PPSA 2, sont en phase de finissage, donc ils ont pour la majorité donc dépassé les 90%. Donc nous avons la tour de contrôle qui est en travaux de finissage. Il reste beaucoup plus du côté de la vigie où il faudrait placer les rideaux de verre qui sont pratiquement dans les 90% et au-delà. Donc le nouveau tarmac, ils sont maintenant en train de placer la couche anti-kérosène. Ils sont dans les 95% pratiquement. Nous prenons la centrale électrique où ils sont en train maintenant d'installer tous les différents équipements. Installer tous les différents équipements qui étaient là. Donc ça, ils sont aussi dans les 90%. La caserne anti-incendie, ils sont dans les 92 ou 13%. Et il nous reste certains travaux pour pratiquement finir. Hein. Donc on entend par là les forages qui nous restent. Donc, la chaussée aéronautique, c'est-à-dire la piste, pas chaussée aéronautique, on entend tarmac et les pistes. La piste était déjà refaite et est en utilisation depuis pratiquement déjà, je crois, 3-4 mois. Et...
Actualité internationale.
Une nouvelle affaire de trafic de fourmis au Kenya fait la une des médias. Un ressortissant chinois a été arrêté cette semaine à Nairobi. Il est accusé d'avoir tenté de faire sortir clandestinement plus de 2000 fourmis vers la Chine. Un trafic fortement réglementé. Il serait lié à une affaire précédente dévoilée l'année dernière.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur de l'organisation Appui aux initiatives communautaires de conservation et de développement durable, AICED, basé à Goma, au Nord Kivu. Faustin Nyebone parle de la campagne de lutte contre la pollution plastique à l'intention des femmes menée tout au long de ce mois de mars. Faustin Nyebone s'entretient à Goma avec Rosalie Zawadi.
Faustin Yeboné, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Dans votre campagne de lutte contre la pollution plastique, vous commencez par expliquer l'origine du plastique.
Ça vaut la peine d'expliquer d'où vient le plastique. Et quand on sait d'où vient le plastique, on saura vraiment que ça peut nous faire du mal. Le plastique vient du pétrole qu'on trouve dans les sous-sols. Et lorsqu'il est à l'état brut, c'est une matière molle comme la pâte et qui s'enflamme vite. Pour qu'il soit plastique, il ne s'enflamme pas vite, on ajoute les additifs. Et là, on va dire retardateur de flamme. On veut que le plastique soit dur, qu'il puisse résister. On y ajoute les additifs qu'on appelle stabilisants. Et là, on y ajoute parfois les plombs. On veut que le plastique résiste aux agents physico-chimiques comme les ultraviolets. On ajoute aussi les additifs. Et là, on voyait maintenant, c'était une matière molle. Tout ça, maintenant, on a le plastique. On a travaillé au laboratoire. Maintenant, ce sont ces additifs-là qui constituent les problèmes pour la santé. Soit ça peut être par l'ingestion, c'est-à-dire on a bu, soit par inhalation, on a brûlé le plastique, alors tout ce qui est gaz là, on va respirer, ou même par contact avec la peau, ça c'est l'intoxication cutanée.
Et dans cette campagne, vous parlez de la corrélation entre la pollution plastique et les droits des femmes. Comment vous expliquez ça?
Nous voulons montrer que la pollution plastique, c'est une question de justice liée au genre. Pour dire aussi que la pollution plastique impacte plus les femmes que les hommes. Donc pendant que les femmes sont en train de réclamer leurs droits, les femmes doivent comprendre que le plastique nuit beaucoup à leurs droits, surtout la santé. Et cela à deux niveaux. Parce qu'il y a d'abord l'anatomie même de la femme et sa physiologie, la prédispose plus à la pollution que les hommes et même les habitudes des femmes. Les femmes ont beaucoup d'hormones que nous. Maintenant, comme les hormones naturelles sont des substances chimiques, sécrétés dans les sacs, ça aide le fonctionnement des organes. Maintenant, comme ces additifs là aussi sont des substances chimiques, une fois dans le sang, ça va perturber, ça va empêcher aux hormones de jouer leur rôle. Maintenant, ils vont perturber le fonctionnement des hormones chez la femme. Maintenant, comme la femme en a beaucoup, et ça va plus perturber chez elle que chez l'homme. J'ajoute encore un autre exemple lié à la physiologie, le cycle menstruel. Les hommes n'en ont pas, mais les femmes en ont chaque mois. Maintenant, que font les femmes? Elles utilisent souvent ce qu'on appelle les bandes hygiéniques. Or, ces bandes hygiéniques-là, ce sont des plastiques. Ça contient ces additifs-là, phtalates et biphénol. Et la femme en mettant ça avec l'absorption cutanée. Mais ça entre encore dans le sang de la femme. Ça l'impacte aussi, ça perturbe son fonctionnement endocrinien.
Vous avez parlé aussi des habitudes.
Parfois, on dit la fille va allumer le feu, la maman à côté là. Elle allume le feu avec les plastiques. Elle est toujours impacté, maintenant il commence à inhaler ces gaz toxiques, ces toxiques-là, ici des plastiques, plus que les garçons. Et la maman aussi est là, après avoir balayé les plastiques, elle fait quoi? Elle brille. Elle inhale beaucoup, plus que le papa qui est parti au service. Tu vois, à ce niveau, ces habitudes-là. Aussi, une autre habitude, le maquillage. Tu vois, dans tout ce que vous avez comme maquillage, il y a des conservants, des substances chimiques pour empêcher à votre produit-là de ne pas se décomposer. Et ce maquillage-là, toujours dans des substances en plastique. Et tu vois, la femme peut utiliser au moins, c'est tout un kit, hein? Peut-être 8, 12. Elle touche par-ci, par-là. Mais pourtant, papa, un seul truc, il est parti. Donc, dans tout ce qu'on a là comme boîte de maquillage, ces additifs-là, ces conservants-là, ça nuit gravement à la santé de la femme.
Et dans la campagne, quels conseils donnez-vous aux femmes afin qu'elles réduisent l'impact de cette pollution plastique sur leur santé?
On peut revenir sur les actions vraiment écologiques. Les bonnes habitudes qu'on avait avant, utiliser les paniers pour faire les marchés que des satellites aux sachets plastiques. Autre conseil peut-être, vous voyez qu'à part les bandes hygiéniques là en plastique, il y a quand même les bandes hygiéniques en tissu réutilisables. Donc ça peut les aider à éviter tout ce qui est lié à la pollution plastique. Tout est devenu plastique dans les ménages. On mange sur les plastiques, on boit sur les plastiques, on dort sur les plastiques, on donne naissance aux enfants sur les plastiques. Et on met la nourriture chaude dans les récipients en plastique. Tous ces additifs-là vont se retrouver dans les aliments et on sera intoxiqué. Là, comme conseil, il y a d'autres récipients en métal qui existent et qu'on utilisait avant l'avènement des plastiques. Parce que la vie est en danger, on ne va pas attendre au récipient de substitution. Prenons les choses à main parce que c'est notre vie en général et des femmes en particulier qui est en danger.
Monsieur Faustin Yeboné, merci.
Je vous en prie.
C'était l'invité de ce journal, le directeur de l'organisation Appui aux initiatives communautaires de conservation et de développement AICED, basé à Goba, au Nord Kivu. Faustin Yeboné s'entretenait avec Rosalie Zawadi. C'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Jude Mister Bilanda. André Mongou a assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Bonsoir chez vous.